Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue à Peut contenir des infos, l'émission qui remplit deux mandats, c'est-à-dire de vous informer et de vous divertir un tout petit peu en même temps. Est-ce que c'est vrai?
Tout à fait. Nous sommes vos fidèles serviteurs, en fait, pour vous faire changer les idées, en fait, pendant une heure.
Je veux pas dire que je suis un bout en train, mais j'essaye quand même de mettre un minimum de bonne humeur dans l'émission.
Un petit sac à blagues. Pour les gens qui te connaissent pas, t'as un petit côté taquin.
Moi, je suis un mini-wheats.
Côté givré.
J'ai un petit côté givré. J'ai plus de wheats, tu sais, que tu vois là, sur l'entièreté de la céréale, mais il y a quand même un petit côté givré de l'autre bord qui est quand même pas pire à mes heures.
C'est une belle façon de dire que t'es pas juste brun.
Pas juste beige, tu sais, capable brun, d'être quelque chose d'autre. J'aide pas juste à aller à toilette.
Ouais, non, c'est ça. Mais tu vois, je suis un peu le contraire. Je suis comme une Fruit Loops. Fait que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui me ramène avec mes nutriments et mon information.
Ben oui, mais t'es multicolore en même temps. Fait que c'est, oui. On aime ça. On en prend une, est bleue, puis là, t'es des fois rose. Ben, c'est bien. J'aime bien ça, moi. C'est une belle comparaison.
Mais apprendre aussi avec parcimonie, parce que je pense qu'à trop grande quantité, je suis peut-être pas bonne pour la santé.
Je pensais jamais qu'on allait se décrire avec des céréales.
Moi non plus, je peux mettre ça sur ma liste. Je suis des Fruit Loops.
Bon, c'est bien. Et moi, je suis un mini-wheat. Alors, quels seront les sujets de cette émission informative et divertissante en même temps aujourd'hui?
Oui, bien, on ne parlera pas juste de céréales. On va parler de si on allait voter à 16 ans, parce que la question revient dans l'actualité. Donc, le vote à 16 ans, ça pourrait peut-être questionner aussi, faire des discussions autour de la table. Et je vous parle aussi de ce qui se passe du côté de LA, là, avec les manifestations là-bas, ce qui est envoyé par Donald Trump, la garde nationale, et comment c'est inquiétant pour nos journalistes du Monde, en fait, qui couvrent ces événements-là.
Et nous aurons une entrevue tantôt dans le deuxième bloc pour parler de...
50e anniversaire, quand même. C'est pas rien, 50e anniversaire du Festival franco-ontarien, donc qui est un événement marquant dans la francophonie canadienne. Et on aura la chance de parler avec Sophie Bernier, qui est directrice de la programmation. Donc oui, évidemment, on va parler de cette programmation, de cette édition 2025, mais toute l'historique et également toute l'importance de ce festival-là pour la culture franco-canadienne.
Moi, je vais vous parler dans un tout petit instant de... Je vous l'avais promis la semaine passée, puis j'ai pas tenu ma promesse. Puis là, j'ai dit, ben, faut que je remette ça. Des vieux métiers qui n'existent plus aujourd'hui.
Et j'ai passé une semaine, Simon, à attendre dans le coin.
Tu veux?
Ta chronique. Oui, tout à fait.
Ben alors, ton attente sera récompensée.
Ouh, j'ai assez hâte. Hey, mais je mets quand même la barre haute pour toi. Là.
Ça fait une semaine, c'est j'attends. Ça. J'ai quelqu'un à satisfaire. Au moins une personne.
Au moins.
Je vais vous donner des astuces à la fois simples, mais efficaces pour améliorer votre ordinateur portable et prolonger la vie de votre batterie.
Très pratique.
Et on va conclure avec, je voulais pas te l'annoncer parce que je voulais avoir le rire en onde ou la surprise, mais je te l'ai dit, j'ai vendu la mèche un petit peu avant. On va faire un quiz sur les pommes de terre.
Bon, on aime ça, des patates.
Hé, mon ami, aimes-tu ça, des patates?
Je sais pas, des patates. Mais je te promets que j'ai pas fait de recherche. J'ai décidé de voir si j'étais ou pas dans les patates.
OK.
Avec ton quiz.
Ça va peut-être surprendre quelques personnes parce que moi-même, j'ai appris beaucoup à part de ça. Alors, on va voir ça tantôt, à la fin de l'émission, dans le dernier bloc. On commence avec le vote à 16 ans.
Ben oui, ça revient dans l'actualité. Et depuis le temps qu'on fait de la radio, Simon, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Eh bien là, il y a une sénatrice, Marie-Lou McFredden, qui revient pour relancer ce débat-là. Et comment ça se fait qu'on en entend autant parler depuis plusieurs fois? Ben, on n'a pas été chanceux avec le dépôt de ce projet de loi-là. Bon, premièrement, c'est déposé par des députés indépendants. Donc, un peu moins de poids où c'est pas garanti, en fait, que ce sera débattu. Et il y a eu des élections à chaque fois qu'on a voulu parler de ça. Et pour faire peut-être un petit historique, là, ça fait plus de deux décennies qu'on essaie de parler de ça, puis que finalement, ça fonctionne pas. Oui, il y a eu des dépôts de sénateurs et de députés indépendants, mais le Bloc québécois l'a fait, le NPD l'a déposé, mais ça n'a jamais passé à la deuxième lecture. Donc, plusieurs arguments. D'abord, pour le vote, à 16-17 ans, ben, on travaille.
Ben oui.
On paie des taxes.
C'est ça.
On a le droit d'être impliqué dans des décisions qui reviennent avec l'argent qu'on gagne durement et qui est envoyé au gouvernement. Ça, c'est un des premiers arguments. On est encore aussi en milieu scolaire. Fait que il y a moyen peut-être d'éduquer ou d'apprendre ou de créer une sensibilité à la politique et aux enjeux avec l'école. Mmh. Et sinon, c'est un argument aussi qui a été repris là, par le président de la Fédération de la jeunesse canadienne française qui dit que, d'ailleurs, il y a des jeunes, des fois, qui sont peut-être un peu plus matures que certains adultes à 50 ans.
Ça, c'est clair. Il y a des jeunes de 16 ans qui sont plus allumés que des gens de 56 ou 66 ans qui ont 40, 50 ans de plus qu'eux autres. Là,
exactement. Et le contraire, c'est qu'il vaut. Il y a des jeunes qui sont très immatures aussi à 16 ans. Mais encore là, la sélection va peut-être se faire naturellement. Ils n'auront peut-être pas l'intérêt au départ d'aller voter ou de s'informer. Fait que peut-être que ça se fera pas. Et du côté des arguments qui sont contre, ceux qui sont comme, ben là, 16 ans, c'est un peu trop jeune, on parle justement de maturité. Mm-hmm. OK, on peut comprendre. C'est vrai que c'est peut-être pas tout le monde qui est rendu là, puis c'est pas tout le monde qui s'intéresse non plus à la politique. Je t'en parlais un peu plus tôt. Ce qui fait que c'est un peu difficile à adopter, c'est que ce sont des projets de loi privés. Donc, ce sont pas les partis qui les déposent, ce sont des individus. Donc, si les débats, les arguments, les discussions s'allongent, ben on perd du temps pour ces projets de loi-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça va finalement arriver? Parce que là, c'est dans l'actualité. Donc maintenant, pourquoi on en parle? Pourquoi c'est dans l'actualité? Parce que ça pourrait être enfin le bon moment, Simon. Donc, il y a plusieurs parlementaires qui s'intéressent, une trentaine de personnes comparativement à 3, 4, 5 à l'époque. Il y a plusieurs étapes qui pourraient permettre de passer à la deuxième lecture de ce projet de loi-là, comme il a déjà été déposé. Et les élections ont déjà eu lieu. Donc, un des majeurs irritants ou freins, en fait, de ce projet de loi-là est déjà passé. Donc, les élections sont faites. On en a au moins pour... Parce qu'on souhaite au moins 2 ans.
Quelques années, là.
Oui, oui. C'est minoritaire quand même. Mais on se souhaite un petit break.
L'horizon est plus éloigné qu'il l'était si on avait déposé ça, par exemple, au mois de décembre ou janvier dernier.
Là. C'est en plein ça, exactement. Ça aurait sûrement tombé encore en deux chaises. Fait que c'était un peu pour ça que ça revenait dans l'actualité. Puis j'avais envie d'en discuter avec toi pour peut-être créer des discussions autour de la table à souper avec les proches. Et des fois, on se rassemble l'été, là, puis on cherche des sujets de conversation avec mon oncle, ma tante. Là. Ouais. Ben, allez-y. On va pouvoir parler de vote à 16 ans.
Bonne idée. Savez qu'avec l'émergence de nouvelles technologies, par exemple l'intelligence artificielle, on est déjà en train d'imaginer quels seront les métiers qui sont appelés éventuellement à disparaître.
Oui, c'est sûr.
C'est sûr. T'sais, on peut penser par exemple à des traducteurs ou encore des gens qui rédigent des textes et des choses comme celles-là. Puis on s'inquiète. On dit c'est du nom bien de valeur là, que les technologies soient en train de pousser des gens à la retraite, dans certains cas bien malgré eux, là, quand tu es traducteur. Pis...
Ben oui, puis on s'entend. Oui, c'est sûr que la technologie puis l'intelligence artificielle le fait bien, mais on se dit toujours ça prend un petit côté humain, mais on tend vers ça. Effectivement, il y a des travails comme ça qui vont disparaître.
Bien, on oublie qu'il y a certains métiers qui ont existé jadis, qui n'existent plus et qui ont été, dans une certaine mesure, eux autres aussi poussés au rencard, si on peut dire, par des nouvelles technologies émergentes.
Genre l'arrivée de l'électricité, mettons?
Mettons.
Intéressant.
Alors, je vous en ai déniché quelques-uns. Vous allez peut-être trouver ça drôle dans certains cas. As-tu déjà entendu parler du réveilleur, le métier de réveilleur?
Réveilleur. C'est comme la personne qui réveillait tout le monde.
Exact.
OK.
Alors, à une époque où le réveil matin n'existait pas, il n'y avait pas d'électricité, de cadrans, de choses comme celle-là. C'était avant les téléphones Android et
avant.
Apple, évidemment, avec la sonnerie dessus. Il y avait justement des réveilleurs qui travaillaient comme ça pour vrai.
Et les coques. C'est à ça que ça sert, non?
Ouais, mais en ville, il n'y en a pas tant.
Ouais, j'avoue.
Alors, le boulot, c'était des knocker-hoppers. Et ces gens-là, c'était particulièrement répandu en Angleterre et en Irlande pendant la Révolution industrielle. Eux autres, ils se promenaient avec des bâtons, par exemple, des petits cailloux, des sifflets et d'autres outils comme ça. Puis, ils garochaient ça dans les fenêtres des gens pour les écœurer, pour qu'ils fassent, qu'ils soient comme « Ah, c'est l'heure de me lever pour aller à l'usine ».
Ben voyons donc.
C'est très sérieux. Ça s'appelait des knocker-uppers et eux autres, leur métier, si tu traduis ça, c'était des réveilleurs. Leur job, c'est de réveiller le monde le matin.
Engagé par l'usine pour aller réveiller les travailleurs.
Très probablement. Planteur de quilles.
De quilles, comme le jeu de quilles.
Oui, oui, les quilles. Hein? De nos jours, il y a de la mécanisation.
Ah, j'avais pas pensé que... Ben voyons donc.
Oui, ben oui. Fait qu'il y a des... Aujourd'hui, c'est une machine qui fait ça, mais à une certaine époque, il y avait, et je me souviens d'avoir travaillé dans une discothèque qui était attenante à une salle de quilles, puis il y avait encore le setup qui existait à l'époque. C'était mécanisé maintenant, mais on voyait, il y avait encore moyen. On m'a ouvert la porte à un moment donné, puis on m'a montré, il y avait comme une allée. Puis là, les jeunes se promenaient là, puis leur job, eux autres, souvent, c'était des adolescents. C'était pas très grand et tout ça. Là. Ça fait que, eux autres étaient payés pour aller planter les quilles quand, mettons que tu avais fini ton carreau, là, si on veut, tu avais fini ta portion de la partie, pour que le prochain joueur s'installe, c'était eux autres qui plantaient les quilles.
Hein?
Ça a disparu, évidemment, ça n'existe plus. Là.
Ben, tu vois, ça ne devait pas être si palpitant que ça, puis aller reprendre la boule qui était prise dans le dallo. Tu veux qu'elle ramène tant qu'à faire?
Ben, c'est ça. Les autres, ils avaient ce job-là, planteur de quilles. Poinçonneur!
Ah, au lieu de. Comme pour le travail?
Non, poinçonneur dans les transports en commun.
OK.
Et ça, ça a disparu vers les années 70. Ça a quand même existé pendant, ouais, quand même pas mal d'années. Alors, avant qu'il y ait les bornes de vérification électronique, là, des cartes magnétiques, ouais, par exemple, dans les autobus ou encore dans le métro et dans le train léger et tout ça, il y avait des gens qui étaient dans les autobus et dans les tramways. Puis eux autres, leur job, c'était de puncher, poinçonner les billets des passagers pour s'assurer qu'ils ne reprennent pas le même billet pour voyager sur un autre...
Ben oui, mais il y avait un poinçonneur et un chauffeur. Comme ben, double job.
Ben lui, parce que les gens rentraient avec le billet, puis le chauffeur, lui, il conduisait. Ben oui, il y avait tellement de monde, tu sais. Fait que lui, il n'était pas pour prendre comme une demi-heure pour poinçonner les billets de tout le monde. Ou dans un train, par exemple. Alors là, il y avait des gens qui circulaient, puis eux autres, ils poinçonnaient. Toc, 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 vos billets, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Puis c'était ça leur job.
Eh bien, je pense qu'il y a encore un peu comme l'ancêtre de ça, tu sais, ou le descendant plutôt de ça, parce que dans les trains, on vérifie encore les billets, même si ça a été acheté par Internet.
Il y a encore des vérificateurs. Oui. Allumeur de réverbères. Aurais-tu fait ça, toi? Allumer des réverbères.
Je suis pas sûre de savoir c'est quoi un réverbère.
Un réverbère, c'est un lampadaire.
Ah! Non, j'ai le vertige.
Alors, eux autres, ils se promenaient. On les appelait les allumeurs de réverbères ou encore les falotiers. Alors, dans le temps où les réverbères fonctionnaient avec des chandelles, si on veut, à toute fin utile. Alors, eux autres, leur métier, c'était de prendre une espèce de perche et puis d'aller allumer les réverbères un par un sur tous les bouts de rue, là. On s'entend qu'il n'y en avait pas juste un dans la ville de New York là, ou dans la ville de Londres, là, mais ça, c'était un job. Et ça, évidemment, quand le gaz naturel ou encore quand l'électricité sont arrivés, bien ça, ça a été poussé à la retraite. Les allumeurs de réverbères sont disparus. Et je vais conclure avec un dernier métier, marchand d'allumettes.
Ah, ben oui!
Ben oui. Cosette, qu'elle s'appelait, c'est ça, la petite fille aux allumettes, là, je ne sais pas trop, là?
Hey, ça, c'est une bonne question, t'es au-delà de mes connaissances.
Ah, le marchand d'allumettes, lui, il avait pour tâche de vendre des allumettes dans la rue. Alors, on le postait souvent aux intersections des rues qui étaient les plus fréquentées, évidemment. Et lui, il vendait des allumettes aux passants à une époque où fumer, c'était beaucoup mieux vu que ce l'est aujourd'hui.
Oui, et plus commun aussi.
Et plus commun aussi. Et surtout que le briquet Bic n'avait pas encore été inventé.
Non, c'est ça. Puis c'était long, gossé avec deux roches. Fait que
c'est ça, deux silex, t'es sur le coin de la rue pour essayer de t'allumer. Bon, mais le marchand d'allumettes, c'était sa job, lui, de vendre des allumettes. Alors voilà, si vous en avez un peu, vous avez une pointe de nostalgie en vous disant que votre boulot ou encore celui de votre beau-frère est appelé à disparaître avec les nouvelles technologies, bien, comment qu'on dirait ça? C'est on n'arrête pas ça, le progrès, hein?
Non, puis on va s'en remettre, hein? On va s'en remettre, on va trouver d'autres métiers.
C'est ça. Je pourrais vous en nommer quelques autres en conclusion. Bourreau, c'était lui qui s'occupait des suppliciés.
Oui, bien, on fait plus ça. On est content, on est content.
Crieur public, garçon d'ascenseur.
Ah oui, comme dans le Titanic.
Ça a disparu. Et puis les draveurs, eux autres, ils faisaient la drave. Là,
oui. Ça, c'est dangereux en temps. Voilà.
Ça conclut pour ce premier bloc de notre émission Peut contenir des infos. Puis dans un instant, on va parler avec qui, là?
On va parler avec Sophie Bernier, qui est directrice de la programmation de la 50e édition du Festival franco-ontarien.
Peut contenir des infos.
Aujourd'hui, à l'émission, on souligne quelque chose de, ma foi, très important. Un demi-siècle, c'est quand même pas mal, là. Un demi-siècle de musique, de culture, de fierté, de rassemblement. C'est le Festival franco-ontarien qui souffle cette année 50 bougies, rien de moins.
Oui, et pour l'occasion, l'équipe a vraiment mis le paquet, Simon, pour souligner cet important anniversaire de la culture franco-ontarienne. Et pour parler de ce bel événement avec nous, on a Sophie Bernier, qui est directrice de la programmation du festival. Bonjour, Madame Bernier, et bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Madame Bernier, 50 ans, là, c'est un cap majeur là, dans un événement, on s'entend. Mais avant qu'on plonge dans l'histoire dans un tout petit instant, moi, j'aimerais ça qu'on parle particulièrement de ce qui nous attend là, cette année avec cette 50e édition. Qu'est-ce qui la rend spéciale, cette 50e édition du Festival franco-ontarien? J'imagine que vous avez préparé quelque chose de grand, là.
Oui, ben oui, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Donc, on espère que la programmation va vraiment plaire aux gens. Le gros là du 50e anniversaire, ça va être le gros spectacle du vendredi soir. C'est un spectacle qui est sous la direction artistique et musicale de DJ 1Pierre et de François Dubé. Alors, ils ont concocté un spectacle concept qui va durer 3 heures, de 7h30 à 10h30, avec plein d'artistes avec qui on va vraiment revivre les grandes chansons des 50 dernières années en Ontario français. Et aussi, on va jeter un regard vers l'avenir. Donc, il y a des artistes comme Robert Paquette, qui va être là. Il y a Michel Lalonde de Garoulou et évidemment le grand retour de Cano avec les membres originaux de Cano. Alors ça va être assez spectaculaire. Il va manquer évidemment que le chanteur de l'époque, le chanteur original André Paiement qui est malheureusement décédé, mais sinon tous les membres originaux vont être là. Alors ça va être vraiment une soirée à ne pas manquer. Il y a aussi des artistes contemporains qui vont être là dans cette soirée-là. Je pense à Le Flo Franco, Mélissa Ouimet, Manon Séguin, DJ Un Pierre. Puis il y a aussi des gens de la relève qui vont être là. Donc ça va être vraiment aujourd'hui pour demain. Ça, c'est le titre du spectacle. Puis c'est vraiment ça qu'on va retrouver sur scène. On va avoir des souvenirs, des chansons contemporaines. Et puis, on va avoir aussi un regard vers l'avenir. Donc ça, c'est le gros morceau du 50e. Avant le début de la soirée, en fait, moi, j'invite les gens vendredi à arriver tôt, arriver vers 17h à l'ouverture des portes. D'abord, vous pouvez aller manger, prendre une bière sur le site avant le début du spectacle. Mais il y aura plein de choses qui vont se passer sur la scène avant le début du spectacle pour souligner le 50e anniversaire. Alors, il y a des surprises là-dedans, donc ça, je veux pas vous les révéler, mais je dis aux gens que c'est une bonne chose d'arriver tôt parce qu'il va y avoir plein de trucs qui vont se passer là avant même le début du spectacle. Vraiment, ça c'est le gros morceau, mais il y a aussi plein d'autres affaires qui vont se passer là, toute la fin de semaine.
Vraiment, vous le dites, il y a vraiment des gros spectacles, vous avez travaillé très fort, puis il y a aussi des activités intergénérationnelles, et vous en avez glissé un petit mot, là, il y a possibilité d'aller manger sur le site, donc vraiment, c'est un événement accompli, on n'a pas besoin d'aller ailleurs que sur le site de Major Hill.
Exactement. Les portes ouvrent à 5h tous les soirs. Donc, les gens, il y a des camions de rue, les gens vont pouvoir manger sur place, on a un bar. Et on a même une microbrasserie de Rockland, la Brower Hoffman, qui nous a brassé une bière juste pour nous, pour le 50e anniversaire. Donc, on a une bière qui est vraiment exclusive aux Franco, qui est vendue aux Franco cette année. Donc, venez goûter à ça. Alors, il y a des activités aussi qui vont se passer avant les débuts du spectacle. On a encore une fois cette année le Café communal, donc qui est une immense tente qui est sur le site où là, on peut aller faire le tour des différents organismes franco-ontariens. On a aussi la boutique du festival qui va être là, qui va vendre on le fait faire de la marchandise spéciale pour le 50e. On a aussi les artistes qui font partie de Bravo S qui nous ont préparé une exposition. Et il y a une scène aussi, une petite scène dans le Café communal où il y a 8 artistes de la relève d'Ottawa qui vont venir faire des spectacles tout au long de la fin de semaine. Il y a aussi une matinée familiale, évidemment, le samedi matin. Et ça, c'est gratuit. Donc, on veut que ce soit le plus accessible possible pour tout le monde. Alors, de 10h à 13h le samedi. Et là, il y a le spectacle du magicien Daniel Coutu, un grand magicien qui fait peu de spectacles maintenant parce que... il fait surtout de la télévision, il est beaucoup, il est producteur télé, il fait beaucoup de télé maintenant. Il fait de moins en moins de spectacles, mais là, il a accepté d'en faire un pour nous parce que c'est le 50e anniversaire. On est super contents. Il y aura des structures gonflables pour les enfants. Il y aura aussi José de TFO qui sera là pour faire une petite session de yoga avec les enfants sur le gazon. Donc, enfin, il y aura plein d'activités à faire le samedi matin en famille.
Madame Bernier, 50 ans, c'est une grosse année, on s'entend. Mais si on recule un petit peu dans le temps, là, le Festival franco-ontarien, c'est né en 1976. Parlez-nous un peu dans quel contexte c'est né cet événement-là et à quoi ça ressemblait à ses débuts avant qu'on en arrive à célébrer un 50e anniversaire.
Mais au tout début, c'était... Bon, moi, évidemment, j'étais pas là, mais même, on a fait beaucoup de recherches là, dans les derniers mois. Puis au début, c'était vraiment une fête communautaire. Il y avait quelques groupes, c'était pas étendu sur plusieurs jours, il y avait quelques groupes de musique, dont Garoulou qui était là à la toute première édition du 50e. Alors, c'est pour ça que c'était tellement important pour nous que Michel Lalonde soit là cette année pour chanter les chansons de Garoulou. C'est comme on boucle la boucle, là. avec lui. Et c'est ça, c'est... Puis tu sais, on se reporte, on était au milieu des années 70, je pense qu'il y avait une grande effervescence en Ontario français. C'est là que, c'est en même temps qu'est né le drapeau franco-ontarien, il y a plein d'autres organismes qui ont vu le jour à peu près au même moment. Donc je pense qu'il y avait une grande effervescence de la communauté franco-ontarienne de dire, ben là, nous on est là, on a une culture qui est à nous, on a des artistes, puis on veut les mettre en valeur, on veut bâtir notre propre aussi culture avec nos traditions puis nos événements culturels, etc. Et puis donc c'est parti, en fait c'est un tout petit festival au début, puis au fil des ans ben ça grossit jusqu'à la formule qu'on connaît là aujourd'hui.
Vous en avez nommé quelques-uns, entre autres Garoulou, mais pour vous, là, quels ont été les grands moments de l'histoire du festival? Est-ce qu'il y a eu des souvenirs mémorables, des artistes emblématiques?
Ben moi, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'y allais, évidemment, quand j'étais plus jeune. J'y suis allée quand j'étais jeune avec mes parents. C'est drôle, je me rappelle d'avoir vu un spectacle de Jean Lapointe avec mes parents à l'époque. Là, on est dans les années, je sais pas, 80. Après ça, j'y allais avec mes amis quand j'étais à l'université. J'y allais avec des amis. Je me souviens d'avoir vu Michel Rivard, d'avoir vu Paul Pichet aussi à cette époque-là. Donc, des grands spectacles. Et puis là, ben aujourd'hui, d'être la directrice de la programmation de cet événement-là, c'est vraiment quelque chose de formidable. Puis depuis que je suis là aussi, on a eu des très beaux moments. Je me rappelle l'année où Marie-Mé était là. Ça a été vraiment un spectacle. C'était un spectacle. Elle faisait partie d'un spectacle concept avec plein de femmes, que des femmes en fait sur la scène. Et ça avait été vraiment un beau moment. Je me rappelle aussi un autre spectacle concept que les Rats Swamp avaient mis en place avec, entre autres, le Diable à 5, avec plein d'artistes là, de musique traditionnelle. Ça aussi, ça avait été toute une expérience. Donc, il y a plein de bons moments là, dans les dernières années.
Et Mme Bernier, comment il a évolué, ce festival? Qu'est-ce que, si on mettait deux choses en opposition, qu'est-ce qui ressemble, on va dire, au festival franco-ontarien de ses débuts et qu'est-ce qui diffère aujourd'hui de ce qu'on connaissait à cette époque-là, quand ça a commencé?
Bien, je pense que ce qu'on veut garder, c'est l'esprit communautaire. Oui. On veut que les gens puissent se rassembler. Puis ça, on se le fait dire souvent. Les gens viennent au Franco et là, ils revoient des gens qu'ils voient juste une fois par année. C'est comme un gros rassemblement de la famille franco-ontarienne. Et puis les gens, c'est ça, c'est vraiment un événement familial. Les gens sont venus avec leurs parents quand ils étaient petits. Là, ils viennent avec leurs enfants. C'est vraiment on le sent, ça, que les gens ont vraiment un lien très particulier avec le Franco. C'est un événement familial qui, pour eux, c'est la communauté. Donc ça, on veut pas perdre ça. Puis je pense qu'on l'a pas perdu, malgré que le festival est beaucoup plus gros maintenant, mais je pense qu'on n'a pas perdu cette ambiance-là là, qui régnait au début puis qui est encore là aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui diffère de l'époque?
Qu'est-ce
qui diffère de l'époque? Qu'est-ce qui le rend distinct de ce qu'il était à l'époque? Je comprends qu'on a gardé cette fibre communautaire, mais si on le compare à il y a, comment il a évolué?
Ben, je pense que là, il a évolué dans le sens où on a des artistes. Au départ, c'était des artistes seulement de l'Ontario.
Okay.
Au fil des ans, on a étendu ça à la francophonie. On fait toujours évidemment une grande place de choix aux artistes francophones. Ontarien, c'est sûr. Mais on a aussi, au fil des ans, invité des gens de partout au Canada et même de l'international. Donc, je pense qu'on a... Ça, c'est vraiment ce qui diffère du début. C'est que là, on est vraiment ouvert sur la francophonie dans son ensemble. Puis aujourd'hui, bien évidemment, la communauté, elle a changé depuis 50 ans. Puis la communauté, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont installés en Ontario, mais qui viennent de plein de pays de la francophonie. Et ça, c'est une richesse que ça apporte à notre communauté. Et donc, il faut que ça se reflète aussi dans la programmation. Donc, on essaie vraiment d'avoir une programmation qui est diversifiée puis qui va vraiment représenter la communauté francophone actuelle. Donc ça, je pense que c'est la grosse différence par rapport au début du festival.
Madame Bernier, je suis un peu obligée de vous poser la question puisque ça fait partie de l'actualité. Là. Le gouvernement provincial de l'Ontario a coupé le financement public là, pour plusieurs événements culturels cette année. Malheureusement, le Festival franco-ontarien, le FFO, fait partie également de ces coupures-là. Et qu'est-ce que ça représente concrètement pour vous? On vous a entendu sortir dans les médias, on vous a entendu dénoncer cette situation-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on veut parler d'avenir là, pour le festival puis qu'il y a une 51e et 52e édition? Est-ce que c'est en jeu?
Bien, c'est sûr que nous, ça nous inquiète beaucoup. Oui, on est sorti dans les médias parce qu'on voulait que les gens soient au courant de ça. Concrètement, bien, c'est sûr que ça nous a fait mal au niveau du budget. Mmh. Et puis, on a dû retravailler beaucoup de choses pour pouvoir arriver avec ce nouveau budget-là. Mais c'est sûr qu'on pense aussi à l'avenir. C'est que là, on a entamé des discussions avec tous les paliers de gouvernement aussi parce que, dès maintenant, parce qu'on veut garder le dialogue ouvert, parce que là, on veut pas que cette situation-là se reproduise encore l'année prochaine. Mm-hmm. Et tout ça. Donc, on veut voir venir les coûts. On sait qu'il y a eu des coupures en culture partout, là, à tous les niveaux. Donc, on n'est pas les seuls qui ont eu des coupures. Puis, bon, on vit aussi à une époque où, c'est ça, les gouvernements doivent faire des choix, puis il y a toute une situation économique actuelle, mais on reste convaincus, nous autres au festival, que la culture, ça fait partie aussi de la santé collective des gens, parce que offrir des activités culturelles, ça permet aux gens de sortir de chez eux, des fois de briser l'isolement. Oui. Je pense aux gens qui sont nouvellement arrivés ici, ben ça leur permet de rencontrer des gens, de découvrir la culture de leur nouveau pays, de s'intégrer et tout ça. Donc c'est pas que des spectacles de musique comme ça. Il y a vraiment des effets sur les gens de fréquenter des activités culturelles, quelles qu'elles soient, qu'ils aillent voir des films, qu'ils aillent voir des spectacles en salle, qu'ils aient des festivals et tout ça. Donc, il faut continuer à se battre pour qu'on puisse avoir le financement approprié pour pouvoir offrir ce genre d'activité-là. Donc, c'est sûr que nous, on va travailler très, très fort là pour pas que cette situation-là se reproduise l'année prochaine, puis qu'on puisse déjà confirmer là, des financements là, pour l'année prochaine.
Et Mme Bernier, on va quand même pas retenir notre souffle comme ça puis nous laisser là, avec sur notre appétit en se disant ben peut-être que ça va finir l'année prochaine. Mais rêvons un petit peu là. Comment on imagine le festival? Puis je trouve que c'est une note beaucoup plus positive pour conclure entrevue. Si on se projette dans le temps, là, rêvons 10, 15, 20 ans, il va ressembler à quoi le festival franco-ontarien? Va y avoir du virtuel? Va y avoir des artistes en hologramme? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on rêve?
Ben pourquoi pas? Ben c'est sûr que nous, on veut être là encore un autre 50 ans. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait une grande place à la relève musicale, parce qu'on veut que ce soit ces artistes-là qui deviennent les vedettes de demain. Donc, on veut avoir encore plus d'artistes franco-ontariens. Oui, puis s'ouvrir aussi sur la francophonie. Nous aussi, ce qu'on rêve, c'est faire beaucoup de créer des résidences, créer aussi des espaces de création entre des artistes. Donc, jumeler, par exemple, des artistes franco-ontariens avec des artistes d'ailleurs au Canada ou d'ailleurs sur la planète, et que les artistes puissent créer ensemble des œuvres qui vont être ensuite présentées aux Franco. Donc, c'est ce genre d'ouverture-là vraiment sur la francophonie là, globale, puis encore, puis vraiment représenter la communauté diversifiée comme elle est. Et puis, c'est ça, bon, on sait pas, hein, oui, effectivement, il pourrait y avoir, c'est sûr que on sait pas, l'intelligence artificielle va peut-être nous aider à faire des trucs, on sait pas, ça bouge tellement vite là qu'on va essayer de suivre un peu là les nouvelles tendances.
Ben rêvons, c'est beau de rêver. Hein? C'est encore une des affaires qui coûte le moins cher, même si c'est tout à fait gratuit. Elle est directrice de la programmation du Festival franco-ontarien, 50e édition cette année en 2025. Sophie Bernier qui était là avec nous en entrevue aujourd'hui. Madame Bernier, merci beaucoup.
Ben merci à vous, merci de l'invitation.
Merci, au revoir.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
de la francophonie canadienne, où que vous soyez à travers le pays, on va se transporter outre frontière et on va traverser chez nos voisins du Sud.
Oui, situation vraiment inquiétante, Simon, parce que, bon, on le sait, ici à l'Alliance des radios communautaires, on chapeaute en collaboration avec trois autres organismes et le consortium des médias communautaires là, de langue officielle, l'initiative de journalisme local. Okay. Et quand je regarde ce qui se passe à L.A., c'est là où je me dis... On est chanceux ici au Canada jusqu'à maintenant de pouvoir avoir cette liberté de presse-là et de pouvoir exercer notre métier sans trop de danger. On s'entend. Je sais qu'il y a des journalistes actuellement qui couvrent des feux de forêt ou qui couvrent des événements qui mettent leur vie puis leur santé aussi en danger. Les feux de forêt, c'est dangereux, on s'entend là. Donc, cet événement-là, j'avais envie d'en parler parce que il y a une journaliste australienne qui a été touchée par une balle en caoutchouc alors qu'elle faisait son direct. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir les images.
Non.
Elle n'était pas dans le trafic. Elle n'était pas dans le trafic, elle était à l'extérieur, c'était bien identifié. Puis vraiment, ça a créé comme tout un chaos sur la scène internationale parce qu'on parle des États-Unis. On parle normalement du pays qui est le plus grand défenseur de la liberté.
Bon, oui, c'est censé être la démocratie à travers le monde. Puis comme tu le dis, c'est écrit dans leur constitution, en théorie, que t'as la liberté de parole, puis t'as...
Exactement. Et liberté d'opinion aussi, oui, oui. Parce que tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Et c'est ce qui fait qu'on est une communauté ou une population diversifiée. Donc, juste pour amener un peu les faits, ça a commencé tout ça le 8 juin dernier à Los Angeles. C'est la correspondante de News Australia, Lauren Tomasi, qui couvrait les événements. Et elle a été atteinte par balle à la cheville, par balle de caoutchouc, je vous rassure, à la cheville et en plein direct. Bon, on l'entend crier, évidemment, elle a mal. On dit, vous avez tiré sur un journaliste. La communauté internationale dénonce tout ça et la police, les gens qui ont tiré sur elle, n'ont toujours rien dit. On s'entend, elle faisait son travail.
Ben, c'est ça. T'imagines que t'es garagiste ou encore que t'es n'importe qui là, qui est en train de faire ta job. Parce que, écoutez, j'en entends certains d'entre vous, très certainement, qui n'avaient pas une très haute estime pour les journalistes.
Tout à fait, puis on peut comprendre, il y a des expériences.
Mais imagine que tu es en train de faire ta job, par exemple, dans ton garage, mm-hmm. ou encore quand tu es en train de faire ta job sur ton truck à quelque part, puis que quelqu'un, middle of nowhere comme ça, arrive avec même un banal, une arme avec une
balle en caoutchouc, balle en caoutchouc ça, tout à fait.
Puis t'as coup comme ça, de façon très singulière, il tire dessus.
Oui, puis c'est qu'au-delà de tout ça, puis c'est que la cause de ça... est pas justifié. S'il y aurait le chaos, si des vies seraient en danger, s'il y aurait une situation nationale, je peux comprendre. Maintenant, ce sont des gens qui manifestent contre les lois de Donald Trump pour les immigrants.
Les déportations.
Ouais, exactement. Pour les déportations. Donc, on manifeste, on dit que ça n'a pas de bon sens. Monsieur Trump a envoyé la garde nationale là-bas sans l'accord du gouvernement local. Et c'est ce qui crée un peu la tollée. Bon, on s'entend, la Californie, à LA, c'est démocrate. Monsieur Trump est républicain. Et on le voit. Monsieur Trump, il gère le pays à sa façon et c'est sa façon de faire. Là où ça devient dangereux, sa façon de gérer le pays est la sienne. Là où ça devient dangereux, c'est quand on ne peut plus relater les faits.
Oui.
Alors, c'est pour ça que j'avais envie un peu de faire, de mettre l'accent là-dessus puis de dire à quel point le travail de nos journalistes ici, on est chanceux de pouvoir le bien le faire, mais quand même, il faut rester très conscient que ce n'est pas un privilège ou une liberté qui est acquise.
Mm-hmm.
Donc, j'incite, puis là, j'entends beaucoup, on a des auditeurs qui nous écoutent, on a nos journalistes aussi, des initiatives locales. Le travail qu'ils font, ces gens-là, est très important. Et que vous soyez d'accord ou pas avec eux, la beauté de tout ça, c'est de ne pas être d'accord puis de pouvoir discuter de ce désaccord-là.
Et on a l'avantage, en plus de ça, d'avoir les médias sociaux, par exemple. Ben, avantage et désavantage dans une certaine mesure. Parce que
c'est jamais blanc.
Mais c'est ça. C'est comme une médaille. Hein? Tu revires la médaille sur un côté, ça chaîne, puis il y a un beau dessin, puis tout ça. De revire de l'autre bord, c'est un petit peu moins beau. Puis ça... Fait que c'est ça, là. Mais les médias sociaux, les gens vont déverser leur fiel et tout ça, puis ça fait partie de la game. Mais si, en contrepartie, tu n'as pas le droit d'exercer ton métier de journalisme de façon... Puis c'est même pas une... Tu sais, si encore ça avait été un... Je ne veux pas justifier nécessairement, mais si encore ça avait été, on va dire, un média américain qui est particulièrement virulent à l'endroit de Donald Trump. Attends.
On aurait pu, ouais.
À la rigueur.
Oui.
J'excuse pas, mais tu sais, à la rigueur, on aurait pu dire, ben, un média australien qui rapporte les événements de façon tout à fait impartiale, qui est juste là comme pour témoigner des événements qui se produisent actuellement, qui n'a même pas le nez dans le trafic, comme on dit.
Exact.
Puis qui se fait tirer dessus avec des balles en caoutchouc, soit, mais qui se fait quand même tirer dessus. C'est ça.
Puis c'est là où il faut peut-être se questionner justement, Simon, puis c'est où est l'enjeu pour la liberté de presse? Bien, en fait, c'est, ça rappelle crûment que, bon, les journalistes, on est en première ligne. Puis l'importance du travail des journalistes, c'est de rapporter les faits, puis ensuite, les gens se font leur opinion sur les choses. Mais si on n'est pas capable d'avoir des faits, comment on peut savoir ce qui se passe? Comment on peut vraiment se faire une tête ou prendre position? Puis des fois, ce sont des journalistes qui vont ramener des situations qui vont faire que des populations vont faire « Oh, 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 ça, ça ne fonctionne pas », qu'on va faire changer les choses. Donc, ce que j'avais envie un peu de réfléchir aujourd'hui, c'était de voir comment on pourrait peut-être protéger nos journalistes ici au Canada, parce qu'il ne faut pas quand même se mettre des œillères ou quoi que ce soit. C'est une situation mondiale qui s'envenime, le climat général s'envenime. Donc, c'est quelque chose qui peut s'en venir au Canada. Maintenant, comment peut-on protéger nos journalistes? Est-ce que c'est en les identifiant un peu mieux? Mm-hmm. Est-ce que c'est en justement avec ces, en dénonçant ce qui se passe? Donc, il y a des questionnements à faire, puis c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va finir, cette histoire-là. Mais continuez de faire vos travaux, et peu importe quel le travail que vous faites, c'est important de rapporter les faits pour qu'on puisse ensuite faire bouger les choses.
Ça, c'est un encouragement en même temps à ces jeunes journalistes, jeunes hommes et jeunes femmes, là, à travers notre réseau de radios communautaires un peu partout à travers le pays, qui font partie de l'initiative de journalisme local, dont toi-même, tu vas être une coordonnatrice, on va dire?
Exactement. Bien, c'est une belle invitation. Enfin, une belle invitation à nos journalistes à dire, faites votre travail, shakez-le le pommier, puis quand c'est bien fait, ça fait de la bonne compote.
Bien, c'est bien dit, ça.
Voilà.
Mais puis ce que j'aime avec la job des journalistes, je les trouve comme moi-même, là, je suis critique à l'endroit des journalistes, OK?
Parce
que
c'est
je suis pas un journaliste à proprement parler. Je suis un animateur radio et je commente l'actualité où j'essaie de rapporter autant que faire se peut de la bonne façon de l'information à travers, par exemple, cette émission-ci. Mais tu peux, il y a une affaire qu'il faut reconnaître aux journalistes. Tu peux pas, comment je dirais ça, prendre juste les affaires qui font ton affaire.
Exact.
Puis laisser de côté les affaires qui font pas ton affaire parce que ça parle pas des choses que t'aimes. Tu sais, tu comprends ce que
oui,
je veux dire?
Mais je pousse ma réflexion encore plus loin, puis ta réflexion, Simon, toi, ton travail d'animateur, de commentateur, bien, il est alimenté par le travail des journalistes,
oui,
parce que tu
absolument.
Te nourris de différents journalistes avec différentes opinions, puis ensuite, tu bases ton opinion à toi pour faire ta critique puis en parler en ondes. Fait que tout le monde, et c'est un cycle, puis oui, les journalistes ont leur base, mais ça permet ensuite de permettre à des commentateurs comme toi d'avoir une opinion et d'en parler à leurs auditeurs.
C'est bien dit, puis ça conclut cette nouvelle-là qui n'est pas très, très réjouissante quand même. Là.
Non, mais il faut en parler. Il faut en parler, puis c'est important. Puis je sais qu'on a des excellents journalistes sur le terrain qui vont faire un excellent travail.
Merci de nous avoir mis les yeux en face des trous, comme on dit.
Ça fait plaisir.
Je vous donne des astuces toutes simples, mais terriblement efficaces pour améliorer votre ordinateur portable et puis prolonger la durée de vie de votre batterie.
Alors, écoutez comme il faut, si vous avez une grand-maman ou des fois des papas ou des mamans qui ne sont pas trop techno, là, c'est le temps. Moi, je pense à mon père en ce moment, là, je vais prendre des notes. Là.
Et ça, que vous ayez un PC Windows ou encore un Mac, je vous dirais que la première chose à faire, d'abord et avant tout, c'est de désinstaller totalement les logiciels inutilisés. Inutile.
Oui, bonne idée. Ça prend la place pour rien.
Parce que quand tu achètes un nouvel ordinateur, ben des fois, il y a des affaires là-dedans qui sont pas très, très utiles. On te bourre ça avec, je dirais pas jusqu'à dire du malware là, ou des cochonneries, mais disons qu'il y a beaucoup de promos ou beaucoup de logiciels qui, des fois, sont « Vas-tu me servir de ça? »
Oui, puis souvent, c'est 7 jours d'essai gratuit, puis après, tu es obligé de t'abonner. Là. Ça, c'est fatigant. Là.
Alors, si vos applications et logiciels sont inutilisés, et ça, je vous dirais, c'est pas nécessairement depuis 2 ans, mais t'sais, dès lors que tu t'aperçois, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 7 mois, j'ai pas touché à ça. Désinstalle. S'il est acheté, bien, au pis-aller, tu le réinstalleras puis tu le réactiveras quand t'en auras besoin. Puis aujourd'hui, il y a tellement d'affaires qui se font sur Internet de toute façon. T'sais, c'est juste d'avoir un logiciel dans ton ordinateur pour faire du traitement d'image quand t'as la même patente en ligne.
Exactement. Pourquoi se compliquer la vie puis de prendre de la mémoire sur notre ordinateur? Allons-y directement en ligne.
Deuxième chose, et ça, c'est vrai autant pour un système que l'autre, là, je parlais tantôt de Mac, mais aussi pour Windows, nettoyer la mémoire cache de temps en temps et débarrassez-vous des données inutiles qui sont accumulées au fil du temps.
Autrement dit, ça, c'est ce que tes pages Internet ou l'ordinateur vont se souvenir quand tu vas sur Facebook ou quand tu vas sur Kijiji.
C'est
des choses comme ça.
C'est une espèce de zone de stockage qui sert un peu de tampon entre ce qui se passe sur le web et les activités dans les logiciels et la machine. Oui, c'est vrai que c'est bien le fun quand tu t'en vas dans un site web de voir les patentes s'afficher très, très, très rapidement. Mais en même temps, au fur et à mesure où tu navigues sur Internet ou encore tu fais des opérations à travers tes logiciels, ça finit par... Ça grossit. Puis à un moment donné, bien ça nuit à, ça nuit aux opérations de ton ordinateur. Donc, c'est pas une mauvaise chose de temps en temps de vider la mémoire cache. Puis il y a des logiciels qui sont très, très faciles à trouver, qui coûtent pas cher, même dans certains cas, qui sont gratuits, qui vont vous aider justement à libérer de la mémoire dans votre ordinateur, de la mémoire de stockage.
Ou même dans, directement, des fois, dans le lecteur Internet, dans le haut, là, il y a une possibilité de vider la mémoire cache. Oui. Ça se fait automatiquement, puis c'est vraiment pas compliqué. Puis c'est parce que ça vient comme ça se nuit. T'sais, c'est supposé d'aller plus vite en loadant plus vite en se souvenant, mais mané, ça se souvient tellement, puis c'est tellement stocké d'images que là, c'est plus long à.
C'est plus long au final que
ça
devrait faire épargner du temps. Préserver la durée de vie de votre batterie en limitant la charge maximale à 80 %, ça va être ça?
Non.
Et ça, c'est comme les voitures, entre autres choses.
Oh, ouais,
on recommande de ne jamais dépasser 80 % en principe dans votre batterie. Vous pouvez y aller jusqu'à 100 % mais normalement, ce qu'on vous recommande, et ça, c'est une astuce qui est tellement efficace que même aujourd'hui, il existe préinstallé dans certains systèmes d'exploitation une fonctionnalité qui permet de limiter la charge de la batterie pour qu'elle ne monte jamais à plus de 80 %.
Ouais, c'est intéressant, je vais aller voir ça.
Pour se garder une espèce de petit buffer pour ne pas aller trop haut puis nuire aux cellules qui sont à l'intérieur de votre batterie et qui, avec le temps, vont finir par se dégrader.
Donc, puis, j'imagine que c'est aussi pas bon quand on laisse tout le temps l'ordinateur branché.
Exact. Ça, c'est la même affaire. On a cette manie, moi-même, quand je suis à la maison
chez
nous, je travaille sur mon laptop, c'est je laisse le fil branché en permanence. C'est parce qu'il y a une batterie là-dedans. Là.
Oui.
Alors, tu devrais, en théorie, débrancher le fil, la laisser descendre jusqu'à aux environs d'à peu près une dizaine de pourcents.
Okay.
Puis après ça, la recharger jusqu'à temps qu'elle monte à 80 quelques pourcents. Puis débrancher ça, fermer le couvert, puis tu recommences demain, tu sais, tu comprends?
Oui, oui, parce que sinon, après ça, à la longue, c'est là où tu n'as plus de batterie du tout. C'est ça, parce qu'elle se fie trop au fil.
Exact.
Okay.
C'est ça, la dégradation. Hmm. Configurer également des sauvegardes régulières des données et du système.
Ah oui. Hein. Perdre des choses, c'est pas le fun.
C'est pas le fun. Puis plus ça s'accumule dans votre ordinateur, ben forcément, plus votre ordinateur va ralentir. Donc, en faisant des espèces de backups comme ça dans votre OneDrive, si vous êtes équipé avec Microsoft, dans iCloud, si vous êtes, par exemple, avec, avec macOS, ou encore si vous fonctionnez avec un Chromebook, dans ce qu'on appelle Google Drive,
oui, tout à fait.
Alors là, de cette façon-là, en ayant des données qui sont sauvegardées en ligne, bien, vous allez éviter évidemment les problèmes si jamais l'ordinateur a des troubles, puis vous allez en même temps libérer de la mémoire dans votre ordinateur.
T'sais. Et il y a le fameux aussi disque dur externe, tu sais, pour les vieux de la vieille, là, parce qu'il y en a, oui, sur Internet, mais des fois, on n'a pas toujours accès à notre drive ou Internet ou peu importe. On met ça sur une clé USB ou peu importe, là, puis on peut avoir nos données, nos photos, les documents qu'on ne veut pas perdre.
Ouais. Et en terminant, si jamais ça vous apparaît comme les 12 travaux d'Hercule, là, ça a l'air trop colossal comme job, ben oubliez pas, il y a toujours moyen sur un ordinateur de repartir à zéro.
Ah, c'est vrai. Refaire les redémarrages d'usine là, qu'on appelle, je pense.
Exactement. Réinitialisation aux paramètres d'usine là, qu'on dit dans certains cas. Alors, si jamais c'est trop plein, c'est sauvegarder ce qui est intéressant, ce que vous avez vraiment besoin, puis faites juste comme, OK, on wipe l'ordinateur, on repart à zéro, puis là, vous allez vous retrouver avec, à toute fin utile, vous n'aurez pas des nouvelles composantes dedans,
Non.
Comme si elles venaient de sortir de la boîte, mais au moins, vous allez repartir à quelque chose d'un peu plus net puis un peu plus propre dans votre système d'exploitation.
Puis on a toujours quelqu'un quelque part dans la famille qui est super bon avec les bidules techno. Il y en a au moins un. Un par famille.
Oui, généralement, c'est moi.
C'est ça.
On marque un petit temps d'arrêt, puis on revient dans un instant. Puis, es-tu prête à manger des patates?
Oh, j'ai assez hâte de manger des patates.
Alors, les pommes de terre, dans un instant, c'est notre quiz.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
J'entends déjà résonner dans sa tête la musique de The Price is Right.
C'est immanquable, Simon. On fait le quiz, ça part, là, puis Bob Barker, là, avec son gros micro, la roue qui tourne.
Et le nouvel animateur, comment il s'appelle? J'essaie de dire son nom, c'est pas grave, mais il me semble qu'il accote pas Bob Barker. Hein? Ça, c'était la belle époque, l'époque de Bob Barker. Là.
Mais il n'y avait pas juste des grandes chaussures à chausser. Il y avait aussi un long micro à porter. Puis écoute, c'est pas évident. C'est pas évident. On peut pas remplacer Bob Barker. En plus, il a joué dans Happy Gilmore. Comment veux-tu?
Ben, j'ai pas la prétention d'être un Bob Barker qui va vous questionner, très cher ami, mais je vais essayer. Je vais essayer de faire une bonne job quand même avec ce quiz qui va porter cette semaine, et vous autres aussi, mesdames, messieurs, à la maison, vous allez en apprendre pas mal. Un quiz sur les pommes de terre.
Ah, je suis assez contente. Ça, c'est un des mets préférés de mon fils. Quand je lui demande ce qu'il veut manger, là, c'est souvent patates, saucisses.
Patates, saucisses.
À 3 ans, patates, saucisses. Ça te donne une idée.
Moi, personnellement, c'est les 3 P. J'en ai déjà parlé, je pense, dans cette émission-ci. Si j'allais en tôle. Non, je ne veux pas aller en tôle, c'est pas ça. Là. Si jamais j'étais pris en réclusion, vous pourriez me servir pain, patates et poulet. Les 3 P, pain, patates, poulet. jusqu'à la fin de mes jours ou presque. Puis je sais pas, ça me prendrait du temps avant de me tanner.
Un grand classique.
Des grands classiques. Finalement, tu pourrais me servir un hot chicken avec, pourrais me servir un chicken avec des frites.
Mais c'est parce qu'il y a plein de versions de ce qu'on peut te faire. On peut te faire une poutine aux poulets, tant qu'à faire.
Exactement.
Il y a plein de choses avec qu'on peut. On va partir un menu pour Simon avec les 3 P.
C'est assez polyvalent. Hein? On commence avec la première question. Vas-tu prendre ton score?
Oui, certainement.
OK, alors il y a 10 questions. Il y a 10 questions. Alors, laquelle de ces affirmations sur les pommes de terre est vraie?
OK.
Puis il y a des choix de réponses, puis tu as aussi des questions vraies ou faux là-dedans. OK, fait que
c'est... Okay, c'est un beau mélange.
Alors, laquelle de ces affirmations sur les pommes de terre est vraie? A. La chair des pommes de terre est toujours jaune. B. Les pommes de terre font partie de la famille des Solanacées. C. Les pommes de terre ont été domestiquées en Europe. Ou D. Toutes les variétés de pommes de terre sont toxiques lorsque consommées crues.
Aïe, 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 ça part fort.
Ouais, hein?
J'ai envie de te dire B.
Ben, t'as bien raison.
Yes!
Alors, ça part bien, bravo.
T'es tellement pas sûr. Je trouvais que c'est ça qui faisait le plus de sens.
C'est, oui, les pommes de terre, Solanum tuberosum, alors des Solanacées, appartiennent justement à cette famille-là, famille des Solanacées, qui comprend également les tomates, les aubergines et les poivrons.
Ah, oh, intéressant.
Solanacées. Alors, si elles ne viennent pas d'Europe, parce qu'on a vu que ce n'était pas une des affirmations qui était vraie,
oui, tantôt,
alors, elles proviennent d'où, les pommes de terre, selon toi? Est-ce A, de l'Extrême-Orient? B, des régions côtières de l'Amérique du Nord? C, des régions andines d'Amérique du Sud? Ou D, des terres semi-arides d'Australie qu'on appelle l'Outback?
Oh là là! Mais j'ai envie... répète-moi B.
Alors, B, c'est les régions côtières de l'Amérique du Nord.
Je vais y aller avec celle-là.
Non.
Non, hein?
Non, c'est les régions andines d'Amérique du Sud.
Ah, oh, je l'aurais pas eu. Sinon, j'hésitais entre l'Australie, mais...
Alors, les pommes de terre proviennent des régions andines d'Amérique du Sud, notamment le Pérou et la Bolivie. Et ce n'est qu'après la découverte de l'Amérique du Nord par les Européens que la pomme de terre a été introduite en Europe, notamment par les Espagnols qui ont rapporté ça chez eux de leur périple en Amérique.
Ah, oh, ils sont tombés en amour avec ta patate.
Ah, ils ont trippé. Ah, Michel, il est pas tard, puis c'est bon, les patates.
Ouais, gars, chérie, on peut faire plein d'affaires avec ça.
Ben oui, tu veux nous faire, je sais pas, un gratin.
Tu peux les faire piler en carré.
Tu peux même nous faire des pâtés chinois avec ça. Troisième question. Là, c'est plus un pâté chinois, c'est un pâté espagnol.
Oui.
Troisième question, le mildiou. Le mildiou est une maladie qui affecte les cultures de pommes de terre. Oui. Vrai ou faux?
Vrai.
Vrai, ben oui. Le mildiou, c'est le nom générique d'une série de maladies qui affectent de nombreuses espèces de plantes, mais ça prend des proportions épidémiques, dirions-nous,
oui,
dans certaines cultures de grande importance, comme par exemple la pomme de terre. Et l'infestation peut entraîner des pertes importantes. Là. Quand
ma belle-mère a perdu son lot de patates l'année passée,
ouais.
Ouais, à cause de ça, ouais, à cause du mildiou.
Une espèce de champignon. Qui...
Oui, puis ça arrive sur les feuilles, c'est comme blanc. C'est
ouais,
pas... Fait que là, tu le sais, puis dès qu'il y en a, là,
t'es fait. Le gratin dauphinois ou pomme de terre à la dauphinoise est un plat de la cuisine A, française, B, anglaise, C, vietnamienne ou D, russe.
Moi, je trouve que dauphinoise, ça fait français.
Ça fait français et vous avez raison, voilà, ma chère. Originaire de la région du Dauphiné, c'est dans le sud-est de la France, le gratin dauphinois ou pomme de terre à la dauphinoise, c'est un plat traditionnel de la cuisine française. Puis ça se dit bien à part de ça, un gratin à dauphinoise.
Mais je trouve que ça fait mieux que des patates gratinées. Tu sais, bon, comme une petite coche par-dessus.
Il y a ça ici, puis c'est exactement comme ça qu'on appelle ça, tu sais, des patates gratinées.
Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est des patates, mais c'est bon.
Alors, ces pommes de terre, il est, et c'est officiellement mentionné pour... Ça fait tellement longtemps, là. Première fois qu'on a mentionné les pommes de terre dauphinoises, c'est le 12 juillet 1788.
Wow!
On n'est pas tellement longtemps avant la Révolution française, là.
C'est bientôt son anniversaire.
Ouais,
ça s'en vient.
Alors là, on a servi ça à un souper ou à un dîner des officiers municipaux de la ville de Gap, dans le Dauphiné. Et on a appelé ça un gratin dauphinois.
Ça fait du sens. Je pensais que ça allait être servi comme... À la royauté. Tu sais, je trouvais que ça faisait... Ça fait fancy
un petit peu.
Ouais, hein?
Vrai ou faux, il est hautement toxique de consommer la pelure des pommes de terre?
Ta question, elle précise pas cuit ou cru, hein? Ben, j'aurais tendance à dire faux, parce qu'il y en a des patates qu'on mange avec la pelure cuite.
C'est la bonne réponse, c'est même l'explication. Alors, c'est faux.
Oh, mon Dieu.
C'est faux. On peut manger la pelure des pommes de terre à condition de bien la laver, évidemment, et d'en retirer les parties vertes, parce que c'est les parties vertes qui sont toxiques dans
la
pomme de terre.
Oui, mais c'est pas bon. De toute façon, c'est raide.
Ben non, c'est raide. C'est amère.
Ouais,
alors,
coeur,
c'est même, je dirais, ça peut même être toxique, mortel.
Bon, en plus.
En plus.
Il n'y a aucun bénéfice.
Mais les pommes de terre en robe des champs, par exemple, ce sont précisément des pommes de terre qu'on sert une fois cuites dans leur pelure.
Ben oui. Alors, des patates au four aussi.
Des patates. Ben, c'est ça, des pommes de terre en robe des champs. Là,
oh, excuse-moi.
Patates au four, mais c'est qu'au lieu de les servir dans un papier d'aluminium, tu peux les servir, on les garoche même des fois dans la braise ou...
Wow!
On fait ça, nous autres, dans le barbecue, là.
Ah oui, oui, tu mets ta patate... Ah,
on perce la pelure, on huile ça avec de l'huile, on met sel, poivre, là, on l'assaisonne à la frotte comme du monde. Tu mets ça sur le côté qui est pas brûlant.
Ouais, ouais, ouais.
Tu rouvres juste un côté du barbecue, tu mets ça de l'autre côté, puis tu laisses ça là pendant 35-40 minutes là, dans ces eaux-là. Là, puis,
à feu indirect, là, c'est
à
ça.
À cuisson indirect, ouais. Évidemment. Tu pompes ça au bout, là, puis tu cuis à cuisson indirect. La pelure, elle vient très, très croustillante. Là. C'est tellement bon. Là. C'est assez patate à être des murs.
Ah, tu me donnes envie de faire des patates à soir.
Carrément. Là, je dis 35-40 minutes. En fait, je guesse un peu sur le temps, mais il y a des recettes en ligne. Vous allez trouver
puis
ça facile.
Puis, checker vos affaires. Ça dépend de la température. Oui. Combien de barbecue aussi?
Ben oui.
Trop fort, pas fort. Fait que,
exact. Ouais. Alors, question numéro 6. Botaniquement parlant,
okay.
Donc, au point de vue de la botanique, qu'est-ce qu'une pomme de terre? Est-ce que c'est un fruit? Est-ce que c'est une graine? C'est un tubercule? Ou D, une tige?
Je vais dire C, un tubercule.
Un tubercule.
Oui.
Ben une autre bonne réponse.
Je connais donc bien mes patates.
Oui, tu connais ça, les patates.
J'hésite même pas, c'est bien bizarre.
Oui, tu veux travailler dans les Costco, là, ta patate, dans le temps.
Mais c'est, ma belle-mère, elle a un gros jardin. Puis okay. En ce moment, je suis avec elle. Fait que là, c'est ça, on est dans ses patates. On a planté les patates, là, c'est fait.
Bon. Alors, botaniquement parlant, la pomme de terre, c'est un tubercule comestible d'une plante herbacée. Et qu'est-ce qu'un tubercule? Ben c'est une espèce d'excroissance en forme de bosse. Et ça sert à quoi, un tubercule, d'après toi? Serais-tu capable de dire?
Je pense que c'est soit pour l'eau ou la nourriture ou des nutriments. C'est comme c'est la poche de la patate. Là. C'est là que ça se nourrit. Là.
C'est ça. C'est un organe de réserve pour la plante, pour l'aider à croître et se développer. Et c'est justement ce tubercule-là dont on prive la plante quand on l'arrache, puis on mange le tubercule. On tue à toute fin utile. Ben, tu sais, en même temps, quand tu arraches un plant de patate, là, la plante, elle reste pas là.
Non, de toute façon. Puis, tu sais, il n'y a rien à faire avec le plant. Là. C'est vraiment la patate qu'il y a à consommer. La feuille, c'est pas bon, surtout si le mildiou est poigné dedans.
Les septièmes questions, surtout, c'est le milieu. Les pommes de terre peuvent aussi être utilisées dans l'industrie textile, vrai ou faux?
On peut faire du linge avec des patates? Ben, j'ai envie de dire oui, juste parce que ça serait drôle de savoir que j'ai un T-shirt en patate.
C'est vrai.
Pour vrai, hein?
C'est vrai. La pâte à sel, c'est une fibre textile durable qui est fabriquée à partir des déchets des cultures de pommes de terre.
OK.
Comme, par exemple, les plures, les feuilles, les trucs comme ça. Et on utilise ça pour fabriquer divers textiles. Ça s'appelle pâte à sel, P-A-T-A-C-E-L. Et on fabrique avec ça divers textiles, comme par exemple des vêtements et de la toile. Évidemment que c'est pas comme de la soie ou du satin, là, on s'entend, là. C'est quand même...
Mais je suis quand même curieuse, comme la prochaine fois que je vais magasiner, puis je vais regarder sur mes étiquettes. Des fois, il y a des textures ou des tissus qui... Comment? C'est spécial. Je vais checker s'il n'y a pas de la patate là-dedans.
Voir si c'est pas de la pâte à sel.
Ouais,
ben... J'espère que c'est bien fait pour quand tu mets ça dans la laveuse, pour pas que ça devienne des patates pilées. Mon chandail est tout brisé. Mais c'est écrit de ne pas le mettre dans la laveuse aussi. Oh. T'sais. OK. Il y a la patate pilée. T'sais. Un événement historique. Huitième question. Un événement historique en lien avec les pommes de terre s'est produit en 1995.
OK, en 1995.
Il y a 30 ans cette année.
Ah, est-ce... ça vieillit quelqu'un, par exemple?
Oui, hein? Coudonc. Alors, est-ce que cette année-là, on emmène les premiers plants de pommes de terre dans l'espace? Est-ce B, un Russe de 92 ans remporte le premier concours mondial de mangeurs de purée de pommes de terre?
Ah, j'aime ça.
C, on crée le premier hybride de pommes de terre de forme cubique.
OK.
Ou D, la frite belge est officiellement inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Je vais choisir mon préféré parce que j'ai aucune idée. Ce sont tous des faits que j'adore. Mais je vais y aller avec B.
B? Malheureusement.
Oh.
Non, c'était plus... j'allais dire terre à terre, mais en même temps, c'est pas ça pantoute. En 1995, la navette spatiale...
Ben non!
Ouais. 1995, Columbia amène à son bord des plants de pommes de terre pour la première fois dans l'espace. Et ce qu'on voulait faire, c'est tester la culture en apesanteur, sans la gravité. Et les résultats sont à ce point prometteurs qu'on s'est dit, sais-tu quoi? Si on va sur la planète Mars, l'être humain un jour, là... On va planter des pommes de terre, il y a des grosses chances que ça va être la première plante qui va pousser sur la planète Mars.
Wow! Puis après, tu fais venir une fromagerie, puis tu peux vivre de poutine.
Puis tu crées une sauce, puis tu te pars un stand à patates, puis tu vends des poutines sur Mars, puis tu colonises de même.
Hey, ça, c'est intéressant. Mais
on a-tu la vision ou on n'a pas de la vision?
Bien, écoute, faut viser plus haut si on veut atteindre des sommets, Simon. C'est beau de rêver. Mais
ben là, il y a sommet puis sommet, là, on est rendu sur Mars.
plus de faim.
Il n'y a plus de faim, là. Tu montes haut, là. Tu dépasses pas mal l'Everest. Neuvième question. Une seule de ces variétés n'est pas une sorte de pomme de terre. Laquelle?
OK.
A, la Mona Lisa. B, la Yukon Gold.
Ça, c'est une patate.
C, la vitellote noire ou D, la pollo?
On dirait que la dernière, c'est une maladie.
Mona Lisa, Yukon Gold, vitellote noire ou la pollo?
Je vais y aller avec Mona Lisa.
Et c'est mauvaise.
Ah, c'est une patate.
Mona Lisa, c'est une variété de pommes de terre néerlandaise. La Yukon Gold, elle est très cultivée en Amérique du Nord. Mm-hmm. On la connaît, celle-là. La vitellote noire, c'est une variété de pommes de terre à la peau et à la chair violette.
OK.
Et le pollo, c'est, en fait, c'est la pollo. C'est une variété de banane qui est sucrée, okay. Banane sucrée qui est populaire aux Antilles, en Côte d'Ivoire et au Cameroun.
Je trouvais que ça sonnait comme la polio. J'ai l'impression d'avoir une maladie.
Et on conclut avec notre dixième et dernière question, et ce sera la fin de l'émission. Le Canada, selon toi, est le plus grand producteur de pommes de terre au monde. Vrai ou faux?
Vrai.
Vrai?
Je voulais être positive.
Elle était affirmative, mais un petit peu trop. Faux. La Chine est de loin le plus grand producteur mondial de pommes de terre, avec tout près d'un quart de la production mondiale. Et en fait, le Canada ne se classe même pas dans le top 10.
Ben non, pour vrai?
Oui, il n'est même pas dans le top 10. Je pense que le plus proche qu'il a été les dernières années, c'est 11e rang, là, ou à quelque part dans le genre.
En tout cas, on a vraiment une grosse usine de Cavendish à l'Île-du-Prince-Édouard.
Oui, il y en a au Nouveau-Brunswick aussi, la patate, puis il y en a dans l'Ouest, dans les prairies. Alors, comment tu as fait de score, là?
Je suis partie fort, puis je me suis laissé aller, mais 66 sur 10,
bon,
quand même.
On a la lettre de passage, alors l'honneur est sauf. Merci.
Oui, pour l'honneur qui reste, il est sauf.
Essayer de le sauver un petit peu. T'sais. On va pas tomber dans les patates, en tout cas.
Mais non, c'est ça.
Pas si pire que ça. Cathy Morin, merci beaucoup.
Merci, Simon, à toi.
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Puis, c'est toi qui vas être responsable du... Est-ce que ça va être la dernière émission la semaine prochaine, John?
Oui, ce sera la dernière émission pour la saison estivale. On prend une pause et on revient après la fête du travail.
Parfait. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye-bye.